Livre de l'Ecclésiaste, chapitre 2, verset 22. Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil? Tous ses jours ne sont que douleur et son partage n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne repose pas, c'est encore là une vanité. L'Ecclésiaste donc pose une question. Que revient-il à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil? Ah, voilà une expression, bien sûr, sous le soleil, qui revient 27 fois dans la Bible et 27 fois dans le livre de l'Ecclésiaste. Sous le soleil. Oh, sous le soleil, il n'y a pas eu que les Aoussiens, les vacanciers. Il y a eu aussi toutes nos joies. Oh, oui, parce qu'on en a quand même, heureusement, si Seigneur. Toutes nos peines. Il y a eu tous ceux qui travaillent, qui sont fatigués, qui ont des soucis, qui souffrent, qui pleurent. La vie, réellement, est un combat de tous les jours. Malheureux celui qui ne combat plus. D'ailleurs, c'est Victor Hugo qui a dit que ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Sous le soleil, il y a ce monde rebelle à Dieu. Il y a aussi l'Église. Et en particulier, la partie de l'Église qui est fidèle au Seigneur, fidèle à sa parole. Sous le soleil, il y a l'Église que Jésus s'est acquise au prix de son sang et qui s'est bâtie, et souvent au prix du sang des martyrs aussi, bien sûr, n'oublions pas. Il y a beaucoup d'images qui représentent l'Église. La fiancée de Jésus-Christ, son épouse, le corps de Christ, hein, par exemple, un troupeau, un temple, une vigne, il est le cep, nous sommes les sarment. Et puis, il y a la famille de Dieu. Il est notre grand frère. Ah oui, celui quand même, le Seigneur qui nous appelle ses frères. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire que le Fils de Dieu nous appelle ses frères. Mais il y a aussi une armée. Les rachetés du Seigneur sont appelés à être des combattants sous le soleil. Un peuple de combattants revêtus de toutes les armes de Dieu. Bien sûr, vous connaissez Éphésiens 6, 13, la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, les chaussures, au pied, c'est le zèle que donne l'évangile de paix, le bouclier de la foi avec lequel on peut éteindre les traits enflammés du malin. Le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alors, je regardais là comme ça trois versets que je vous cite qui viennent des psaumes. Psaume 18, tu me ceins de force pour le combat, tu fais plier sous moi mes adversaires. Il y a quand même des choses hein, qui nous encouragent, non? Psaume 144, béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Le psaume 140, Éternel Seigneur, force de mon salut, tu couvres ma tête au jour du combat. Tu protèges ma tête, en quelque sorte, au jour du combat. Et puis nous ne sommes pas seuls dans le combat. C'est vrai que le Seigneur déjà nous a revêtus de force quand il nous a baptisés dans son esprit. Hein, le consolateur est avec nous aussi. Et nous avons la grâce de Dieu. Le Seigneur est avec nous dans nos combats. Il n'est pas absent. Sous le soleil, sur cette terre, il y a beaucoup de préoccupations. Hein. Il y a des fatigues, des luttes, des douleurs. Est-ce que la douleur, les souffrances prennent des vacances ? Est-ce que la persécution pour nos frères et sœurs prend des RTT? Pas l'impression, hein? Pas l'impression. Les jours ensoleillés pourraient quelquefois inciter les chrétiens à se relâcher, à ranger la Bible un peu dans le tiroir, faire une petite pause, à mettre leur vie de prière en sommeil, ce serait dommage. Ça serait dommage. Jésus a dit, et Jésus a répété, veillez et priez. Veillez et priez. Nous sommes appelés à être de bons soldats sous le soleil. Vous savez qu'un soldat de Jésus-Christ, il a au moins bien sûr ses trois ennemis. L'adversaire, Satan, bien sûr. Le monde, et puis sa chair. Il y a déjà au moins ces trois ennemis-là. Nous sommes appelés en tant que soldats de Jésus-Christ à être vigilants, à veiller. C'est la première épître de Pierre au chapitre 5 et au verset 8. Je vous lis dans la traduction Sommer. Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui et demeurez ferme dans votre foi. Résistez-lui avec une foi ferme. C'est ce que la parole de Dieu nous exhorte à faire. Paul avait ouvert des territoires à l'évangile. Hein. Il avait fait un grand travail. Hein. Il avait vraiment reçu une force pour le faire et la grâce de Dieu. Mais il savait que l'adversaire était fort et rusé. Hein. Il disait même qu'il voulait aller voir les Thessaloniciens. Il avait dit, mais Satan m'en a empêché. Alors peut-être qu'il l'avait empêché aussi à cause de la persécution et toutes les difficultés qu'il rencontrait. Mais enfin, il était conscient quand même de cela. Et à la fin de sa vie, quand même, il disait, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Alors je ne vais pas vous parler des tentations de l'adversaire, parce que je crois que notre frère avait commencé à le faire et le fera beaucoup mieux que moi. Mais c'est vrai qu'on ne les provoque pas. Mais il y a des puissances, il y a des autorités à combattre pour que les âmes soient délivrées. Ah, ça ne se passe pas tout seul. Nous sommes engagés dans un combat spirituel contre des adversaires qui ne sont jamais en vacances. Vous connaissez bien sûr Éphésiens 6, 12. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors nous avons un autre adversaire, bien sûr, on ne va pas s'attarder sur ce sujet, mais qui est le monde, un autre ennemi du soldat du Seigneur. Le monde, sa vanité. Sa frivolité. Suivre Jésus dans la bataille, en quelque sorte, ou dans le combat, nous amène à marcher à contre-courant du monde, et quelquefois de certaines églises. Enfin, ça, c'est un autre problème. 2 Pierre 1, 4 nous assure que nous avons les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que. C'est afin que, c'est toujours très intéressant dans la Bible. Afin que par elle, nous devenions participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Nous sommes appelés à fuir cette corruption qui a gagné le monde entier. Elle est dans l'Europe, je crois que c'est terrible aujourd'hui. On trouve malheureusement aujourd'hui des chrétiens qui marchent, qui se déplacent sur le chemin large et spacieux. Malheureusement, un monde qui propose tout un tas de distractions et de divertissements qui sont plaisants. Ils sont plaisants pour la chair, certains. Alors, j'ai repris, moi, mon petit dictionnaire. Première définition de distraction, inattention. De la pensée aux choses dont on devrait s'occuper. Ah bah tiens, c'est juste, hein? C'est la première définition, mon petit dico, mon petit Larousse. Des divertissements, première définition, ce qui détourne des choses sérieuses. Eh bien, dis donc. Bon, il existe de saines détentes, on est tous d'accord, bien sûr, sur ce sujet-là. Mais sans séparation de l'esprit de ce monde, le soldat de Jésus y perd vite la vision du but. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit deux fois. Deux fois, il l'a répété. Ils ne sont pas du monde. Et il a rajouté, c'est quelque chose qui moi me touche, comme moi, il a dit comme moi, je ne suis pas du monde. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Amen. Nous ne sommes plus du monde, c'est fini. On nous a dit que Moïse lui regardait l'opprobre, enfin l'humiliation de Christ, comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. L'Égypte, le symbole, bien sûr, du monde, en quelque sorte. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Aujourd'hui encore, on pourrait dire que les souffrances du peuple de Dieu sont aussi les souffrances de Christ. Vous savez, la tête, elle n'est pas séparée du corps. Si le corps souffre, le Seigneur souffre avec nous. Et peut-être. On a du mal à le comprendre, mais il est dans la gloire. Et la tête n'est pas séparée du corps. Alors, un troisième ennemi, c'est notre chair. Ce n'est pas sans dommage qu'on annonce un évangile au rabais. Un évangile sans don de soi. Un évangile sans abstinence de rien, ni renoncement à ce qui plaît à la chair. Bien au contraire, il faut s'amuser, il faut. Pour vivre comme le monde, eh bien non. Un évangile où il suffirait de chanter, de danser pendant 1 heure le dimanche matin et puis d'écouter sagement, sans dormir, la prédication du matin, le sermon du matin. Eh bien non. L'évangile, bien sûr, vous le savez, je vous apprends rien, c'est bien plus que cela. Vous savez, le mercenaire, il peut considérer qu'on lui impose toutes sortes d'interdictions, alors qu'elles ne sont pour le bon soldat de Jésus-Christ que des abstinences ou des renoncements qu'il impose à sa chair avec joie, avec joie, alors qu'elles sont pour le mercenaire des choses impossibles à porter. Et on voit ça aujourd'hui même dans les églises. Le soldat de Jésus-Christ n'est pas un mercenaire, il est soldat par amour pour son Seigneur. Hein, ce qu'il désire tout son cœur, c'est la gloire de Dieu. C'est la gloire du Seigneur Jésus. Et c'est ce que dit hein, Corinthiens 9, 25. Hein, tous ceux qui combattent, s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Certains ils essaient d'être champions du monde en ce moment, je retrouve. Enfin, ça pourrait l'air de marcher pour les Français, mais bon. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Hein, ils s'imposent, ces gens-là. Mais les sportifs, là, c'est incroyable hein, ce qu'ils souffrent. Ils souffrent. Et ça, pour des choses vaines. Faisons-le. Faisons-le, nous dit la parole de Dieu, pour une couronne incorruptible. On pourrait prendre un exemple de combat que vous connaissez bien sûr. C'est Josué et Israël qui vont combattre Amalek. Hein, Exode 17. Alors, Moïse et Aaron montent sur la colline alors que la bataille est là dans la vallée. Lorsque Moïse étend sa main, le peuple est vainqueur, il baisse la main, le peuple est vaincu. Alors bien sûr, ils ont trouvé une pierre, ils ont mis Moïse assis dessus et chacun, Aaron et Hur, ont tenu ses mains vers le ciel. Et ses mains restèrent fermes, nous dit la parole de Dieu, jusqu'au coucher du soleil. Jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek. Que nos mains restent fermes jusqu'à notre coucher de soleil. Alors, c'est vrai que je pense à Israël qui est sorti d'Égypte la main levée. Ils ne sont pas sortis en vaincus ou comme ceux qui prenaient la fuite. Ils sont sortis en vainqueurs. La main levée, ça nous fait penser aussi à cela. On peut y voir bien sûr l'image de la prière d'intercession, la main levée vers le sanctuaire divin est aussi ici une marque de la foi dans le secours de Dieu. On pourrait voir aussi en Amalek un symbole de la chair que le diable manipule, quoi. La chair qui revient toujours à la charge dès qu'on baisse les bras. Bien sûr. La vieille nature, elle s'est pas manifestée aujourd'hui, mais elle risque de revenir à la charge dès demain. Est-ce que la victoire est toujours définitive dans ce domaine? C'est pas évident, il suffit d'un moment de relâchement. C'est pas pour rien qu'il est décrit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Et puis Éphésiens 6, 18 qui nous dit, bien sûr, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Vous voyez, si les mots sont forts, et priez pour tous les saints, pour ceux qui sont 128 hors Kennedy, bien sûr. Et pour tous les autres, pour tous les saints, tous les saints. Hein. C'est vrai que pendant ces combats sous le soleil, le combattant, il va souffrir. Ça va lui arriver. Un soldat, c'est quelqu'un qui connaît la fatigue. On ne peut pas être soldat sans que ça soit autrement. Hein. Moi, j'ai connu la fatigue en tant que soldat. J'étais 8e bataillon de Zouave en Algérie. Là. Vraiment, il faisait chaud, tout ça, on était fatigués. Bon, ça c'est une autre affaire. Mais il est vrai qu'on peut être blessé pour sa susceptibilité, son mauvais caractère. Hein. Il suffit que quelqu'un nous dise, oh, t'as un grand nez au milieu de la figure pour que la blessure soit profonde. Hein. Ah! Alors là, ces souffrances-là ne sont pas appelées à les connaître sous le soleil. Nous sommes appelés, bien sûr, à vivre ce que l'apôtre disait, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ. Amen. Amen. Les premiers chrétiens savaient qu'ils allaient souffrir, hein, ceux qui se convertissaient, en particulier à cause de leur foi, ceux qui se convertissent dans des pays où il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de liberté religieuse, ils savent qu'ils risquent de souffrir pour le nom du Seigneur Jésus. Même si ce n'est pas facile chez nous. Moi, j'ai connu un frère à Couville, là, et quand il allait à la réunion de prière, il revenait, des fois la porte était fermée à double tour. Hein. On était pas méchants, il ne défonçait pas la porte, il restait dehors, il couchait dehors. Eh bien, ce frère-là, peut-être vous étonnez, mais il a lutté, il n'a pas divorcé, hein. Il a lutté pendant plus de 30 ans. Je ne pourrais pas dire le nombre d'années, mais je suis sûr que c'est plus de 30 ans. Et à la fin, sa femme s'est convertie, elle a été baptisée. Elle lui en a fait voir pendant des dizaines d'années. Il a été vainqueur. Mais il a eu la force du Seigneur. Comment peut-on rester avec une femme qui ferme la porte, qui nous fait tout un tas de misère à cause de notre foi? Le Seigneur lui a donné la force de résister. Merci Seigneur. Mais est-ce qu'on est un soldat de Jésus-Christ? Quand sans souffrir, on peut accepter par exemple la fermeture du lieu de culte, l'abandon de la Sainte-Seine plus ou moins, tout un tas de choses qui se passent dans la maison de Dieu. Si on accepte ça sans souffrir, est-ce qu'on est réellement un soldat du Seigneur? Moi j'entends certains qui me disent, oh, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Et le problème est réglé. Ils font ce qu'ils veulent. Ah oui, mais bon, ils ne paraissent pas souffrir de l'apostasie. Sont-ils vraiment à Jésus-Christ? Ont-ils à cœur la gloire de Jésus-Christ? Je ne sais pas. Que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur les secoure, les éclaire. Ils ont besoin de prier pour ça. Ils ont besoin de lutter pour ça. Aujourd'hui, ils ont besoin de lutter pour ça. Paul a souffert dans son service pour le Seigneur. Ce n'était pas pour lui un sujet de tristesse. Il disait, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Il ne se plaignait pas de ses souffrances à lui. Il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève dans ma chair pour son corps qui est l'Église. Alors, c'est vrai que l'apôtre, il parlait de ses souffrances comme on parlait de gloire. Hein. Mais pour faire honneur au Seigneur, nous savons que les souffrances de Christ sont les seules souffrances expiatoires. agréé de Dieu et que nous, on ne peut pas effacer un seul péché par nos fatigues et nos douleurs. Ce n'est pas possible. Toutefois, le Seigneur n'est pas insensible à nos souffrances. On disait tout à l'heure, la tête n'est pas détachée du corps. Ce qui manque, vous le savez, c'est exprimé dans la pensée des tribulations des enfants de Dieu sous le soleil. Mais bien sûr, le chrétien, il n'est pas masochiste. Il ne prend pas plaisir à l'autoflagellation. S'il lui arrive de souffrir le mépris, la moquerie, l'incompréhension, les outrages, eh bien, c'est parce qu'il aime son Seigneur. C'est parce qu'il aime son Seigneur qu'il a la passion des âmes perdues. Les Actes 5:41, les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Amen. C'est formidable ça. Eh oui, nous avons besoin d'avoir cette vision-là. Excusez-moi. C'est vrai que le disciple n'est pas plus que le maître. Hein. Le maître, il a été trahi. On l'a abandonné. Seigneur a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. N'oublions pas cet extraordinaire cri de victoire qui a eu à la croix. Tout est accompli. Tout est accompli. Amen. Merci Seigneur. Il nous faut combattre ensemble dans la prière, c'est vrai, et rester ferme jusqu'à notre coucher de soleil. Jusqu'à notre coucher de soleil. Mais c'est vrai que l'enfant de Dieu n'est pas appelé à souffrir tout seul dans son coin. C'est vrai que l'apôtre disait à Timothée, souffre avec moi. La vie chrétienne, ce n'est pas une croisière dans la Méditerranée. Hein. C'est pas. Non. Hein. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et il disait aussi, souffre avec moi pour l'évangile. Pars! Remarquez bien. Il y a tout un tas de choses sur lesquelles on passe très vite, mais souffre avec moi par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Amen. Pas par nos propres forces. Il n'y a pas d'indifférence, c'est vrai, dans le vrai christianisme. Vous en êtes partie d'un même corps. Par contre, c'est vrai que nous sommes. Bon, vous le savez, pour la peine, si c'est utile de vous dire ça, mais nous sommes adultes, il existe des détails de notre vie que nous n'allons pas partager obligatoirement, que nous allons exprimer là dans le lieu secret, parce que c'est des petites choses de la vie. Mais il est bon de s'en décharger hein, dans le lieu secret, parce que les petites choses, mais ça va faire un poids assez important. Et il faut veiller, hein, ça vient un poids qui est un fardeau qui peut devenir usant. Mais quand le fardeau est trop lourd, nous avons besoin de demander le secours et l'aide de nos frères et sœurs. Il n'est pas normal de cacher nos fardeaux à nos frères et sœurs, sont appelés à partager nos joies. Ah oui, ça fait du bien parce que hey, la souffrance c'est bien, mais on a besoin aussi de partager nos joies, nos peines. Vous savez ce que dit Galates 6,2? Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Mais remarquez bien, les uns des autres. Alors, quelquefois, on trouve dans les églises de braves frères et sœurs qui considèrent que les autres sont là pour porter leur fardeau. Et non, c'est écrit les uns les autres. Les autres des uns. On est appelé à partager. L'Église, ce n'est pas seulement un endroit où on vient exprimer nos difficultés, nos besoins, sans écouter les besoins, bien sûr, de nos frères et sœurs. Alors, il arrive, moi je suis toujours étonné parce qu'il arrive, je peux parler encore un petit peu,
Oui.
vous n'êtes pas trop lassé,
Non.
vous n'êtes pas marre encore, ça va?
Non.
Certains frères et sœurs passent par des moments difficiles. Il arrive qu'on soit étonné de l'apprendre, mais quelque temps, ou quelques mois, quelquefois après, on est surpris. Ah, bon, si on l'avait su, on aurait prié, on aurait intercédé pour eux. On aurait crié au Seigneur pour eux. J'ai juste une question. Savent-ils la valeur de la prière de la famille de Dieu? Est-ce qu'ils savent, est-ce qu'ils sont conscients de la valeur de l'intercession de prière de la famille de Dieu? Alors, un autre combat, on va passer très vite sous le soleil. C'est cette fois, c'est Josué qui va combattre des Amoréens. Bon, alors Josué, là, il nous épate. Soleil, arrête-toi sur Gabaon et lune sur la vallée d'Ajalon. Eh bien, non. Alors, ça, c'est extraordinaire quand même. Hein. Et le soleil s'est arrêté, hein. Presque une journée. Hein. C'est incroyable. Alors, nous, on dit quelquefois, je sais pas, moi, je peux pas faire 2 journées en une. Hein. Mais eux, ils l'ont fait, hein, Israël. Ils l'ont fait. Quelle foi. La foi des miracles. Quelle manifestation extraordinaire de la puissance de Dieu qui arrête les planètes dans leur révolution et qui donne à un homme l'autorité et l'audace de commander au soleil et à la lune. C'est extraordinaire, ça. Ouais. Maintenant, étant en Christ, quand même, sommes en Christ, en son nom, qui n'est pas une simple formule, nous le savons bien. En son nom, c'est en sa personne. Hein, nous sommes ici-bas, ses mains, ses pieds, sa voix, pour appeler les pécheurs à venir au pied de la croix, mais nous avons une autorité que nous ne réalisons pas bien souvent, faut l'admettre. Ça dépasse nos conceptions humaines. Le Seigneur désire trouver en nous une foi en action. Non pas seulement, Seigneur, je crois en toi, c'est bien, oui, mais vous voyez, Pierre, par exemple, quand il est dans la barque, quand même, il manifeste une foi en action. Il entend la voix de Jésus qui dit viens, parce que ça c'est utile quand même, sinon ça ne sert à rien. Il entend la voix de Jésus qui dit viens, mais il passe par-dessus la barque et il s'en va sur l'eau quand même. Bon, après, il y a un moment de doute, on est humain. Hein. Bon, bien sûr, hein, mais Seigneur, vous retrouvez en nous cette foi-là, cette foi qui agit, pas cette foi qui fait rien, quoi. Hein. Une foi qui prend le commandement, en quelque sorte, des opérations. Amen. Dans le nom de Jésus. Puissions-nous le réaliser. Que le Seigneur nous aide. Nous avons tous des progrès à faire dans ce domaine. Matthieu, le Seigneur a dit, vous savez, Matthieu 17, 20, si vous y avez de la foi comme un grain de sel, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, bien sûr. Mais Seigneur a dit aussi, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, demandez et vous recevrez. Pour le Seigneur, tout est simple. Pour nous, c'est compliqué. Nous cherchons beaucoup de détours. Hein. Demandez, vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. C'est vrai qu'un jeune pourrait avoir tendance à dire, pour moi, le soleil se lève, hein, j'ai tout mon temps. Eh bien non. Hein. Le prince de ce monde veut la perte d'une multitude d'êtres humains. Nous sommes tous appelés à travailler pour le Seigneur et à combattre. Un plus âgé pourrait dire, moi j'ai pris de l'âge, hein, pour moi le soleil se couche, donc maintenant je m'ébats les marteaux, quoi. Il est vital que nous puissions compter les uns sur les autres, quel que soit notre âge, nous avons chacun notre activité, notre utilité. Nul n'est utile, n'est inutile, nul n'est inutile dans l'œuvre de Dieu. Nul n'est inutile, nous avons tous notre place. Le Seigneur nous a tous confié une qualification, un don particulier. Alors, quelle est la réponse à la question de l'Ecclésiaste? Que revient-il à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil? On peut dire qu'au soldat fidèle, qui aura travaillé, qui aura combattu, qui se sera fatigué pour son Seigneur, il recevra une place dans la gloire avec le Seigneur Jésus et une récompense pour sa fidélité. C'est la parole de Dieu qui nous le promet. Il verra la nouvelle Jérusalem, la ville qui n'a ni besoin ni de soleil, ni de la lune, hein, pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Dieu le consolera. Amen. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Gloire au Seigneur. Et puis un dernier texte, Malachie 4, 2. Pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice et la guérison sera sous ses ailes. Ça vaut la peine, non, de se consacrer au Seigneur.
Amen.
Ça vaut la peine de le servir tout son cœur. Ça vaut la peine de se fatiguer pour lui. Le but est si grand. Le but est si grand. Amen.
Amen.
Soldats de Jésus, remplis d'amour, combattons pour lui de jour en jour, prêts à le servir, sachons obéir, sans paresse ni détour. Soldats de Jésus, remplis d'amour, combattons pour lui de jour